le fait que, assez vite, les pagano-chrétiens ont voulu se démarquer d'Israël. On voit ça déjà dès le IIe siècle avec Justin, puis ensuite avec Chrysostome. Et là, comme on l'a dit la dernière fois, je crois, les chrétiens ne se sont pas tellement rendus compte qu'ils étaient en train de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Parce que l'Empire romain était un empire relativement tolérant au point de vue religieux. D'abord parce que c'était leur intérêt. L'Empire romain était une mosaïque de peuples de très très différents. Et finalement, respecter ces différences était une tactique politique assez sage, disons. Bon. Les Romains aussi étaient des gens qui avaient un grand respect pour ce qui était ancien. Et à l'époque de l'apparition du christianisme, l'Empire romain était confronté avec une situation qui n'est pas sans rappeler jusqu'à un certain point la nôtre aujourd'hui, à savoir une invasion de religions nouvelles qui venaient notamment de l'Orient. Certaines étaient véritablement décadentes. Il y avait de l'anthropophagie, des orgies absolument abominables qui se produisaient, etc., de la nécrophagie, des choses comme ça. Et un petit peu comme un certain nombre de sectes qui défrayent la chronique aujourd'hui. Et finalement, l'Empire romain a dit qu'il fallait quand même mettre un peu d'ordre dans tout ça. Tolérance, oui, mais jusqu'à un certain point. Et finalement, comme les Romains avaient du mal à voir clair un petit peu dans tout cette espèce de foisonnement, de religion, de secte et de tout ce qu'on voudra, ils ont finalement pris une mesure, au point de vue légal, qui était celle-ci. Tout ce qui pouvait se réclamer d'ancienneté, d'une ancienneté vénérable, était illicite. Tout ce qui était nouveau était illicite. Voilà, c'était comme ça une manière de se s'embarrasser, de ne pas trop s'embarrasser de problèmes. Remarquez, entre parenthèses, que les autorités actuelles sont un petit peu tentées de faire un peu la même classification. Des choses qui peuvent sembler aberrantes passeront relativement bien si elles sont le fait des religions historiques et établies, mais des mêmes aberrations passeront beaucoup plus mal s'il s'agit de ce qu'on appelle les nouvelles religions, qui est pratiquement justement un synonyme de secte aujourd'hui. C'est très intéressant cette évolution. Or, justement, quand on lit l'Évangile de Luc ou le livre des Actes, surtout ces deux livres, on se rend compte avec quel soin Luc, qui était parfaitement conscient de cette évolution, essaye d'enraciner le christianisme, ce qu'on n'appelle pas le christianisme, qui n'est pas le christianisme d'ailleurs, dans le judaïsme. En quelque sorte, le message qu'il fait passer aux autorités romaines dans ces deux ouvrages, l'Évangile et les Actes, c'est « ne croyez pas que le christianisme soit une religion nouvelle. C'est une branche de la religion ancienne, qui est le judaïsme, qui est considérée comme religion licite, malgré la révolte et la destruction de Jérusalem et du Temple. Le judaïsme reste religion, religio licita, comme disent les Romains, c'est-à-dire religion licite. Et aussi longtemps que le christianisme colle au judaïsme, il est considéré par les Romains comme religion licite et il n'est pas persécuté. À partir du moment où il se sépare et il fait tout pour montrer qu'il n'a rien à voir avec le judaïsme, eh bien, il y a deux conséquences qui s'en suivent. La première, c'est qu'ils se mettent les Juifs à dos, et que les Juifs, éventuellement, qui ne sont pas davantage des anges que les autres, ça, vont dire eh bien, aux autorités romaines, effectivement, ces gens-là, nous ne les reconnaissons pas comme les nôtres. Et nous nions toute appartenance de leur part au judaïsme, c'est rien à voir, c'est une hérésie, et vous avez raison de les persécuter. Et il y a finalement un problème qui divise encore les historiens. Lors des premières grandes persécutions romaines à Rome, vous savez, la persécution de 63, qui suit l'incendie de Rome, au cours duquel des chrétiens ont été pris la torche à la main, il ne faut quand même pas l'oublier, parce que Rome était la grande prostituée et par conséquent devait disparaître. Bon. Alors, c'était certainement une petite minorité, mais enfin, ça a suffi pour donner crédit à l'idée que les chrétiens avaient mis le feu à Rome. Bon. Alors, est-ce que les juifs ont dénoncé les chrétiens aux autorités romaines pour que ces autorités romaines les persécutent? Bon, les historiens sont divisés sur la chose. Ce n'est pas absolument invraisemblable, quoi qu'il en soit. Et ce qui est en tout cas certain, c'est que les Romains, à partir de cette période-là, commencent à considérer effectivement les chrétiens comme quelque chose de différent du judaïsme, donc une religion nouvelle. Et si c'est une religion nouvelle, c'est une religion illicita, illicite, et par conséquent, on est en droit de l'interdire et de prendre les moyens pour l'interdire, c'est-à-dire en fait de la persécuter. En tout cas, il y a un endroit où la polémique judéo-chrétienne, parce qu'il y a à partir de cette époque-là, une polémique judéo-chrétienne très forte, et de la part des juifs également, nous aurons l'occasion de le voir dans un instant, avec, par exemple, à partir de 95, l'année 95 marque un tournant, puisque c'est le fameux synode de Yavné. Le Sanhédrin, sous la direction de Rabbi Gamaliel, se rassemble après, donc avec Hanan ben Zakkai, Gamaliel, etc. Et là, donc, bon, ce sont les pharisiens, qui décident que, finalement, la ligne pharisienne sera la seule qui soit recevable à partir d'aujourd'hui. Voilà. Donc, toutes les branches du judaïsme qui avaient existé jusqu'alors, c'est-à-dire les sadducéens, les esséniens, ce qu'on appelle les thérapeutes qui sont mal connus, mais enfin tous les mouvements baptistes, il y en avait un certain nombre, et les nazaréens, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, sont excommuniés. C'est la rupture. Le seul judaïsme autorisé sera le judaïsme pharisien. Cet indurcissement qui est dû à la situation politique, pour subsister dans l'exil, le Sanhédrin estime en effet que c'est la seule solution pour sauver le judaïsme de la faillite totale. Bien. Et alors, on introduit, à partir de cette période-là, dans ce qu'on appelle la grande prière, la Amida, c'est-à-dire la prière que l'on prononce debout, qui porte aussi le nom des Shemoneh Esrei, c'est-à-dire des 18 bénédictions. On introduit une 19e, entre guillemets, bénédiction. Vous savez qu'éventuellement, en hébreu, le mot bénédiction peut aussi signifier malédiction. Et que, par exemple, quand on lit dans le... Par exemple, quand on prononce le nom de Dieu, on dit à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Donc vous trouvez ça chez Paul aussi, n'est-ce pas? Dieu qui est béni éternellement. Bon. On ne prononce jamais le nom de Dieu, ou même ce qui tient lieu du nom de Dieu, n'est-ce pas, sans ajouter béni soit-il. Vous avez d'ailleurs ça aussi dans Marc, dans le procès de Jésus. Le grand prêtre interroge Jésus, es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni éternellement? Bon. Alors, quand on lit, par exemple, des textes comme dans le livre de l'Exode, où on rencontre un bonhomme qui a maudit Dieu, n'est-ce pas, et qui est donc lapidé pour ce faire, il a maudit Dieu, on ne peut pas lire ça. Bon, ou même, quand la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et meurt, on ne peut pas lire ça au devoir, c'est pas possible. Parce qu'en quelque sorte, on prendrait part soi-même, d'une certaine manière, au blasphème. Alors quand on fait la lecture publique de ce texte, on dit, la femme de Job lui dit, bénis Dieu et meurs, bénis Dieu et meurs. Bon, tout le monde comprend, maudit Dieu, bien sûr. Hein? Par exemple aussi, quand Naboth de Israël est accusé par Isabelle d'avoir maudit Dieu et le roi, alors quand on fait la lecture, on dit, Naboth a béni Dieu et le roi. Tout le monde comprend, évidemment, il a maudit Dieu et le roi. Alors, quand on parle de la 19e bénédiction, c'est dans ce sens-là. La 19e bénédiction est une bénédiction qui est en fait une malédiction. Elle dit à peu près ceci, que tous les hérétiques, les renégats, les hautains, les blasphémateurs, soient maudits et disparaissent en un instant. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, toi qui abaisses l'orgueil des hautains. Bon. L'origine de cette bénédiction est très controversée. Et on n'a pas d'unanimité, surtout qu'il existe, selon les différents rituels, différentes versions de cette 19e bénédiction. Et il y a notamment dans cette bénédiction une expression qui revient souvent, c'est l'expression minime, les minimes. Bien. Et on appelle pour cette raison la 19e bénédiction Birkat minime, la bénédiction des minimes. Alors, il y a des grandes discussions parmi les historiens du judaïsme pour savoir quelle est la date, d'abord, de cette bénédiction. Est-ce qu'elle date d'avant Yavné ? Ça, on en discute. Ou est-ce qu'elle date de Yavné ? Bon, en tout cas, après Yavné, on la trouve partout, ça c'est sûr. Bon. Maintenant, deuxièmement, qui sont les minimes ? Bien. Vous savez que au Moyen-Âge, on a parlé de cela, au moment des grandes disputations, notamment la disputation de Paris sur la nocivité du Talmud, les juifs renégats qui avaient dénoncé le Talmud auprès des autorités chrétiennes disaient qu'il contenait des blasphèmes contre Jésus, contre la foi chrétienne, et aussi que les juifs, trois fois par jour, maudissaient les chrétiens. Et quand il maudissait les chrétiens, ça veut dire qu'il faisait allusion à la birkat minim, la bénédiction des minimes, les minimes étant les chrétiens. Il est effectivement peu douteux que, au Moyen-Âge en tout cas, certains considéraient les minimes comme étant les chrétiens, puisqu'il n'y avait plus à cette époque-là, alors ni les béotusiens, c'est-à-dire les sadduciens qui avaient disparu depuis belle lurette, ni un certain nombre d'autres sectes dissidents du judaïsme qui sont parfois mentionnés dans certaines versions anciennes de la Birkat Minim. Bon. Et alors donc, même à Barcelone, en 1263, Nachmanide a entendu cette accusation. Il dit, mais vous maudissez les chrétiens trois fois par jour. Et Nachmanide s'est défendu, comme l'avait fait d'ailleurs Rabbi Yehiel de Paris, en disant, non, les minimes ne sont pas les chrétiens. Les minimes, c'est tous les hérétiques, quel qu'il soit. Alors c'est une réponse un peu normande, parce qu'on aurait pu demander, mais les chrétiens sont-ils des hérétiques pour les juifs? Bon. Évidemment, ça c'est un terrain sur lequel Rabbi Yehiel de Paris s'est bien gardé de s'avancer, mais il a dit non, ça concernait les hérétiques. Et les hérétiques qui peuvent surgir au milieu de nous encore aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, nous avons nos hérétiques. La partie chrétienne a été mollement convaincue de la chose, il faut le dire. Et finalement, cette accusation selon laquelle les juifs maudissent les chrétiens trois fois par jour ressurgit périodiquement. Bien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc parfois il y a des précisions de ce qu'on entend par les minimes. Donc, les béotusiens, ça apparaît plusieurs fois, c'est-à-dire les sadducéens. D'autres sectes qui ont pu, par exemple les Karaïtes, ont été aussi parfois inclus dans la Birkat Minim à partir du Xe siècle. Différentes communautés juives, éventuellement, y ajoutaient quelques-uns de leurs ennemis, c'est évident. Maintenant, on trouve dans la synagogue du Vieux Caire, justement, qui est, comme vous le savez, la synagogue karaïque dans laquelle on a trouvé une littérature très, très abondante, une version justement de la Birkat Minim, ou alors les Nazoréens, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, sont nettement désignés. Alors, l'idée qui est sous-jacente, c'est que les minimes, alors le mot mine apparaît très souvent dans le Talmud, dans les couches les plus anciennes du Talmud, la Mishnah, comme se référant aux disciples de Jésus. Par exemple, on connaît dans le Talmud un certain Yaakov Lemin, qui était donc un disciple de Yeshua à Notzri, et qui avait des dons de miracle. Et même certains rabbins sont allés demander qu'il prie pour lui au nom de Jésus pour qu'il soit guéri de leur maladie. Et finalement, Rabbi Akiva, donc c'était à l'époque de Rabbi Akiva, a interdit, il dit, vaut mieux mourir plutôt que d'être guéri au nom de Jésus. Bon, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord avec ça, surtout quand on était très malade. Mais enfin, c'était la position de Rabbi Akiva. Et le Talmud loue fort un rabbin, justement, qui avait préféré mourir de sa maladie plutôt que d'aller trouver Yaakov Lemin, qui était originaire d'un village de Galilée à côté de Shepharam, et qui était réputé comme ayant justement un don de guérison au nom de Jésus très important. Alors Lemin, c'est très clair, c'était le disciple de Jésus. Bon. On a un autre cas dans le Talmud aussi qui concerne Rabbi Eliezer ben Hourkanos, qui vivait aussi au IIe siècle, et qui a été traduit devant ses collègues, devant le Sanhédrin, pour minute, pour crime de minute. Ça veut dire justement de... et il avait cité, alors il est traduit devant un tribunal rabbinique, et on l'accuse d'avoir cité des paroles de Jésus, Jésus le Nazaréen. Bon. Et finalement, sa femme aussi était proche, et finalement, il est condamné pour minute, ça veut dire pour judéo-christianisme, finalement. Ce qui montre d'ailleurs que déjà, encore à cette époque-là, il y avait... Le judéo-christianisme avait un impact très important sur le judaïsme d'Israël. Bon. Donc, dans les textes les plus anciens du Talmud, le mot min, minut, signifie manifestement les judéo-chrétiens. Bon. Et ce serait donc un anagramme de l'expression hébraïque ma miné Yeshua anotsri, les croyants en Jésus le Nazaréen. Bon. Dernièrement, Flusser a beaucoup étudié ce problème-là, et finalement, il ne se prononce pas. D'autres pensent que ce serait aussi une abréviation du mot Ma'aminim. Les judéo-chrétiens se désignaient entre eux comme les Ma'aminim, ça veut dire les croyants. C'est encore, d'ailleurs, sans qu'il y ait de relation avec cette affaire-là, l'expression qu'emploient les juifs messianiques aujourd'hui pour se désigner entre eux, les Ma'aminim. Donc, Min, Ma'amin, bon, ce serait une abréviation de Ma'amin. Bon. Finalement, quand on étudie ce problème de la minute et de la birkat minim, il est quand même difficile d'échapper à l'idée qu'au moins les juifs d'Israël, les judéo-chrétiens d'Israël, étaient visés par la birkat minim. Et alors, justement, le but était celui-ci, c'est que, en introduisant cette 19e bénédiction à Yavne, même si elle englobait plus que les simples judéo-chrétiens, même si par la suite elle s'est appliquée à d'autres, ou même avant elle s'est appliquée à d'autres que les judéo-chrétiens étaient vraisemblablement inclus là-dedans. Et l'idée, c'était que les judéo-chrétiens soient exclus de la synagogue. Ils s'excluent eux-mêmes. Car il était évident que les judéo-chrétiens ne pouvaient pas prononcer une malédiction contre eux-mêmes. Et alors, justement, dans les synagogues, de cette période-là, donc après 95, on observait tous les gens suspects, et s'ils se taisaient à la 19e bénédiction, on les excluait de la synagogue. Bien. Maintenant, d'autres mesures semblables ont été prises à Yavne, à savoir le fait que, jusqu'alors, dans la prière de la synagogue, on répétait les 10 paroles. Et c'était une habitude des judéo-chrétiens de lire les 10 paroles. C'est très intéressant de voir que, à cause de cela, aujourd'hui, on a cessé de lire les 10 paroles publiquement dans la synagogue. Même si aujourd'hui, il est rare que chez les chrétiens, dans le culte des chrétiens non-juifs, on lise les 10 paroles, les 10 commandements. Mais le judaïsme a exclu de sa liturgie la lecture des 10 paroles à cause des judéo-chrétiens. Bon. Yavne a donc été la rupture totale avec le judéo-christianisme, comme l'écrit dernièrement un savant espagnol, chercheur espagnol du nom de César Manzanares. À Yavne, le judaïsme a coupé, s'est amputé d'une partie de lui-même, de quelques-uns de ses meilleurs fils. Et alors, il y a eu à la fois un retour, si vous voulez, à un judaïsme, bon, certains n'ont pas supporté la rupture au niveau du christianisme et ont apostasié Jésus. D'autres ont essayé de trouver un moyen terme, tels les ébionites, qui ont nié la divinité de Jésus, comme sont tentés de le faire aujourd'hui un certain nombre de juifs messianiques en Israël. Et puis d'autres sont passés dans le maranisme, ça veut dire des maranes judéo-chrétiens, ça veut dire officiellement ils étaient juifs orthodoxes, et en fait ils croyaient en Jésus. Mais bon, ça, on ne peut pas jouer ce jeu longtemps, plus de 2-3 générations, au bout d'un temps ces gens-là s'éteignent automatiquement. Donc voilà, si vous voulez, ça a été... Et alors, cette polémique, à cette époque-là, après l'époque de Yavné, le judaïsme a été très polémique vis-à-vis du christianisme. Et dans des endroits où il y avait de fortes implantations et chrétiennes et juives, ça a été parfois assez violent. C'était le cas d'Antioche. Antioche, à partir du 2e, surtout 3e siècle, où là, il y avait donc une grande animosité des juifs par les chrétiens, et c'est la réciproque. Et parfois, on est allé jusqu'à des empoignades physiques. Et c'est pas un hasard si c'est à Antioche que Chrysostome a prononcé ses fameux sermons contre les juifs, les traitant de tous les noms, la synagogue n'étant qu'un bordel, dans lequel se livrer à de la prostitution et tout ce que vous voudrez, des mots orduriers d'une bassesse absolument inimaginable. Bon, c'était dans ce contexte. Et donc, si vous voulez, la disparition, comme le montre Manzanares, du judéo-christianisme a été une catastrophe, évidemment, pour le judaïsme, parce qu'à ce moment-là aussi, non seulement ils se sont privés de leur meilleur fils, mais Jésus est devenu un étranger. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant ça commence à changer, mais il a fallu attendre le XXe siècle pour que ça change. Et Jésus est devenu un ennemi. Du côté chrétien, bien sûr, ça a été une catastrophe également, puisque là, on s'est coupé de ses racines juives, et puis, comme on l'a vu, parce que, eh bien, on est tombé sous le coup des Romains. Des Romains qui ont eu la tentation de jouer le judaïsme contre le christianisme aussi, c'est évident. Ils ont vu là un moyen de diviser pour régner. Bon, les Juifs avaient, certains Juifs avaient persécuté les chrétiens, par exemple avec l'histoire d'Étienne, Jacques, dont on vient retrouver, je ne sais pas si vous avez entendu à la radio, c'était une nouvelle sensationnelle. On a retrouvé à Jérusalem l'ossuaire de Jacques, le frère de Jésus. Et sur l'ossuaire est écrit en toutes lettres, Jacques, frère de Jésus, fils de Joseph. Donc, comme l'écrit le professeur Lemaire, qui a publié cette nouvelle sensationnelle, qui embête beaucoup les catholiques, bien entendu, vous l'imaginez, si on fait une étude statistique, Jacques n'était pas un nom très répandu à cette époque-là, le nom de Jésus, oui, le nom de Joseph aussi, mais pas le nom de Jacques. Et finalement, pour qu'il y ait un Jacques, frère de Jésus, d'ailleurs on ne mentionne jamais sur les ossuaires le frère d'un tel, bon, le fils d'un tel, c'est tout. Donc frère de Jésus et fils de Joseph, ça ne peut être que le Jacques dont il est question dans le livre des Actes, effectivement le frère de Jésus. Donc c'est vraiment une découverte archéologique de première grandeur qui vient d'être faite ces jours-ci. Bon, donc on sait que ce personnage, ce frère de Jésus, a été supplicié en 62, à l'instigation du grand prêtre sadducéen, ça. Et nous dit Joseph dans ses ouvrages, un certain nombre d'autres avec lui. Donc il y a eu une persécution à cette période-là contre la communauté chrétienne, judéo-chrétienne, on peut dire, de Jérusalem. Et néanmoins, bon, il est certain que la polémique a été plutôt verbale, d'autant que, justement, comme le dit Joseph, mais d'autres parmi les pharisiens s'y sont opposés, sont opposés à la persécution. Donc il y avait deux courants. Il y avait le courant sadducéen qui était très hostile donc au judéo-christianisme et qui a fait tout son possible pour l'éliminer. Et comme on le voit dans le livre des Actes d'ailleurs, les pharisiens qui, sans être absolument favorables, ont voulu jouer la neutralité et entreprendre une polémique qui était... au niveau d'un débat d'idées, disons, et non pas une persécution violente. Même si certains éléments les plus radicaux d'entre eux, tels Saul de Tarse par exemple, ont rejoint justement les pharisiens, les sadducéens, dans leur opposition au christianisme naissant. À partir du IIe siècle, l'Église pagano-chrétienne va être animée de l'orgueil hellénistique, qui est celui des philosophes qui ont l'impression d'être supérieurs à tous les autres êtres humains. Et même si dans la diaspora, les persécutions seront beaucoup plus modestes, c'est essentiellement de la part des grands prêtres qu'il y a eu opposition en ce qui concerne les chrétiens. Bon, on sait par un ouvrage apocryphe aussi du IIe siècle que selon ce qui est la tradition, Paul est mort, martyr à Rome, donc au moment de la grande persécution de 63-66, il serait mort vers 66 vraisemblablement, et avant de mourir, il aurait demandé au Seigneur de pardonner aux juifs et aux non-juifs. Et alors, ce qui amène un certain nombre de spécialistes de l'histoire du christianisme ancien de penser que si les juifs ont pu avoir une responsabilité dans la mort de Paul en le dénonçant, par exemple, aux autorités romaines, les torts étaient vraisemblablement partagés puisque Paul a prié pour les uns comme pour les autres. Donc c'est qu'ils n'étaient pas les seuls en cause. Il y avait des responsabilités des deux côtés. On sait aussi que parfois, pendant les grandes persécutions, les juifs ont caché des chrétiens. Ils ont protégé des chrétiens. Donc c'était pas non plus univoque, cette situation-là. Même certains martyrs chrétiens ont été enterrés dans des cimetières juifs. Donc là, la rupture n'était pas non plus totale. Il est certain que si les juifs avaient pris une part importante aux persécutions des chrétiens, les empereurs chrétiens ensuite ne les auraient pas ratés, quand les empereurs sont devenus chrétiens. Or, nulle part, à partir de Constantin, on ne lit que parmi les nombreuses accusations qui ont été portées contre les juifs, et l'on sait s'il y en a eu, jamais on ne trouve le fait qu'ils aient persécuté les chrétiens. Ça ne leur est jamais reproché. Alors donc, bon, il y a eu finalement, dans les persécutions juives contre les chrétiens, il y a eu les premières persécutions à Jérusalem que nous avons évoquées, en deux phases, donc immédiatement après la Pentecôte, jusqu'à la mort d'Étienne et puis la conversion de Saul de Tarse. Puis ensuite, une deuxième vague aux environs des années 40 avec Agrippas Ier qui prend fin à la mort d'Agrippas Ier. Troisième vague de persécution à la mort de Félix qui meurt en poste et qui est pendant la vacance du pouvoir. Le grand prêtre Ananias en profite pour lancer une persécution contre la communauté judéo-chrétienne au cours de laquelle Jacques est exécuté et quelques autres avec lui, comme le dit Joseph. Et puis, ensuite, c'est à peu près tout. Il y a ensuite quelques persécutions isolées dans la diaspora avec des dénonciations certainement aux Romains. Mais ça se borne à peu près à ça. Et finalement, mis à part les deux cas que j'ai exposés de minutes, pendant le premier siècle, il n'y a pas véritablement, même dans la littérature talmudique, de polémique antichrétienne extrêmement développée. D'ailleurs, malgré les accusations qu'on trouve encore aujourd'hui, enfin qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans la littérature arabe, contre le Talmud, qui comprendrait des blasphèmes contre les chrétiens, au regard de tout ce dont les juifs ont été accusés par les chrétiens, on est étonné de voir justement le peu d'accusations qui sont portées par le Talmud contre les chrétiens. Finalement, les censures du Talmud qui auront lieu au Moyen-Âge, après les grandes disputations du Moyen-Âge, on trouve sur un ouvrage de l'importance du Talmud, 12 grands volumes de l'attaque des grands Larousse, on trouve finalement 2-3 pages de textes qui ont été censurés, quoi. Autant dire, c'est quasiment insignifiant. C'est quasiment insignifiant. Donc, on ne peut quand même pas mettre sur le même plan les persécutions dont les chrétiens ont été victimes de la part des juifs, et les persécutions dont les juifs ont été victimes de la part des chrétiens. C'est quand même extrêmement disproportionné. Alors, bien sûr, il y a une polémique anti-chrétienne très vive, à certaines époques, et notamment dans les premières époques. Et par exemple, l'idée que le christianisme est une usurpation du véritable judaïsme. Et il y a par conséquent ici là une espèce d'opposition réciproque, comme l'a très, très bien vu Manzanares, hein, qui vient de ce que justement ceux qui pouvaient faire tampon, c'était les judéo-chrétiens, sont éliminés d'un côté comme de l'autre. Bon. En 95, les juifs coupent la branche du judéo-christianisme à Yavne, hein, avec l'introduction de la Birkat Minim. Et à Nicée, Manzanares dit Nicée a été un Yavne chrétien. Cette fois-ci, les judéo-chrétiens ont été excommuniés. Par exemple, Nicée a décidé que tout prélat qui pratiquerait la Pâque à la manière juive serait excommunié. Tout prélat qui célébrerait le culte, le Shabbat, serait excommunié. Donc c'est vraiment la fin du judéo-christianisme au sein de la Grande Église. Donc à ce moment-là, les judéo-chrétiens sont attaqués des deux côtés. Ils sont attaqués par les juifs parce qu'ils sont chrétiens, et ils sont attaqués par les chrétiens parce qu'ils sont juifs. Et alors là, maintenant, les deux forces restent en présence. Et les deux forces vont se déterminer, le judaïsme et le christianisme vont se déterminer l'un par rapport à l'autre pour s'opposer. Et jusqu'à la conversion de Constantin, finalement, hein, nous allons avoir un autre... On ne peut pas parler d'antisémitisme, vraiment, de la part de l'Église chrétienne. Il faut parler d'un anti-judaïsme théologique. On fait tout ce qu'on peut pour se couper du judaïsme, mais on reste au niveau du débat d'idées. C'est une controverse qui est théologique. Et le but de cette controverse théologique, c'est aussi de répondre d'abord c'est la réponse du berger à la bergère, parce que c'est vrai que les juifs aussi attaquent les chrétiens sur le plan théologique. Et par exemple, ils vont nier que Ésaïe 53 s'applique au Messie, ils vont donner une autre interprétation des prophéties messianiques, on va même jusqu'à interdire de lire la Bible en grec, hein, la version des 70, parce que c'est la Bible du christianisme. Et en réponse à ça, les chrétiens vont dire « La Bible des 70 est la seule Bible qui soit inspirée. » Vous voyez, donc, durcissement, crispation des positions, sur des positions extrémistes d'un côté comme de l'autre. Et jusqu'à aujourd'hui, le judaïsme actuel, le judaïsme orthodoxe, est une religion qui s'est constituée en face du christianisme et contre le christianisme. Ça, faut le savoir. Le judaïsme actuel n'est pas le judaïsme du deuxième temps, n'est pas le judaïsme que Jésus et les apôtres ont connu et ont professé. Il y a des éléments communs, bien sûr, mais il y a des éléments dans lesquels ils ne se reconnaîtraient pas du tout. Hein? Du côté chrétien, on fait la même chose. Du côté chrétien, on se détermine contre le judaïsme. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste. On peut dire que le christianisme, aujourd'hui, dans la majorité des églises, y compris les églises évangéliques, n'est pas non plus le christianisme dans lequel se seraient reconnus obligatoirement les premiers chrétiens. C'est un christianisme qui s'est créé contre le judaïsme. Comme je disais, si Paul revenait aujourd'hui, il serait très étonné de nous voir fêter Noël. C'est une évidence. Il serait très étonné de nous voir fêter Pâques comme on le fait. Encore plus avec les autres Pâques, bien sûr. Bon. Voilà. Entre autres choses, on pourrait citer tellement d'autres éléments qui, justement, sont des manifestations d'anti-judaïsme théologique. Le but de cette déjudaïsation de la foi chrétienne, c'était aussi d'empêcher, si vous voulez, le prosélytisme juif en milieu chrétien. D'empêcher des chrétiens de passer au judaïsme. Il y avait ça aussi. Et alors, c'est d'autant plus un combat fratricide, si vous voulez, que les deux parties, d'abord son frère, comme on l'a vu la dernière fois, ont la même écriture et reconnaissent que l'écriture est la seule autorité, du moins à cette période-là, en ce qui concerne le christianisme. Après, ça a changé, on a ajouté la tradition au milieu chrétien. Mais à cette époque-là, on était tous d'accord pour dire que la seule autorité valable en matière de foi, c'était l'écriture. Bon. Le problème portait sur l'interprétation de l'écriture. Et l'Église, les deux parties finalement, ont dit « Notre interprétation est la seule valable. » Et alors, là où le judaïsme insistait sur l'interprétation littérale, le christianisme insistait sur l'interprétation allégorique. Et c'est toute l'école d'Origène, l'école d'Alexandrie. Bon. L'allégorie n'est pas étrangère, évidemment, à l'exégèse juive, mais elle est seconde par rapport au sens littéral. Et elle n'intervient que lorsqu'elle s'impose véritablement. Et alors, selon l'exégèse des rabbins, l'allégorie ne peut pas contredire le sens littéral, mais il vient simplement le confirmer. Et on retrouve, par exemple, cette idée aussi par rapport à la Septante, qui parfois, justement, allégorise. C'est la raison pour laquelle aussi on a rejeté la Septante en milieu juif, et par contre, on l'a adoptée en milieu chrétien. La polémique anti-juive, qui était une polémique de défense, en quelque sorte, de la foi. Ce n'est qu'à partir de Constantin que cet anti-judaïsme va dégénérer en antisémitisme. Ça veut dire, on va maintenant haïr les juifs en tant que tels. On va reprendre les vieux poncifs de l'antisémitisme classique gréco-romain, qui font des juifs une race dégénérée par essence. C'est pas seulement à cause de leur foi qu'ils sont haïssables et méprisables. C'est parce qu'ils sont juifs, tout simplement. Et ça, c'est la base de l'antisémitisme de tous les temps, de tous les lieux, jusqu'à aujourd'hui. C'est ça ? Mais c'est avec Constantin que l'on dégénère dans cet antisémitisme-là. Jusqu'alors, on est essentiellement au niveau du débat d'idées, même si de temps en temps, on en vient aux mains comme à Antioche. Mais c'est ponctuel, c'est pas quelque chose de... Et les Juifs ne sont pas les derniers non plus à faire le coup de poing, entre nous soit dit. Hein. Mais à partir de Constantin, là, on arrive vraiment à l'antisémitisme au sens propre du terme. Bon, alors évidemment, ce qui fait problème pour les Juifs, c'est l'interprétation, l'exégèse christologique de la Torah et des prophètes, et puis évidemment l'idée de l'élection des païens. À cette époque-là, l'apologétique chrétienne insiste sur le fait que Jésus a accompli les espérances messianiques, et c'est cela évidemment que le judaïsme cherche à nier. Et là, des exégèses messianiques des textes prophétiques, par exemple, qui étaient traditionnels dans le judaïsme depuis des siècles, depuis par exemple les Maccabées, vont cesser d'avoir un sens messianique, et on peut dire que à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, le judaïsme cesse d'être une religion messianique. L'attente du Messie, elle est là, mais elle n'est plus première. Elle n'est plus première. Ce qui est premier, c'est l'accomplissement des mitzvot, des commandements dans l'aujourd'hui. Et on laisse à Dieu le soin d'envoyer le Messie en son temps, à son heure, etc. Bon, remarquez, on a exactement la même évolution au sein du christianisme, qui aussi, à partir de Constantin, au lieu de rester un mouvement spirituel, ce qu'il avait été donc un mouvement messianique et charismatique, devient à partir de Constantin un mouvement lié à la politique de l'Empire. Jusqu'alors, on considérait que l'Empire et le pouvoir politique étaient le domaine des puissances démoniaques, comme Jésus le dit dans le récit de la tentation du désert. À partir de Constantin, ce qu'on va essayer de faire, c'est de christianiser le politique, quoi, hein, sans remettre fondamentalement en question la structure même de l'Empire romain. Hein. Et alors là, bon, bah, c'est un peu la prostituée qui chevauche la bête, quoi. Il n'y a pas de problème. On en arrive à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours un peu le problème, l'ambiguïté des rapports entre l'Église, les grandes églises, y compris les orthodoxes d'ailleurs, et l'État. Donc là, on arrive à une nouvelle étape où aussi la christianisation de l'Empire prend le pas sur le retour de Jésus. Non pas que le retour de Jésus soit nié, mais il est repoussé à une date très lointaine. L'important n'est plus le retour de Jésus. L'important, c'est l'influence politique que le christianisme va pouvoir avoir dans le monde. Et donc, on a la même évolution que dans le judaïsme. Le judaïsme s'éloigne donc de l'espérance messianique et le christianisme aussi. Compte essentiellement pour, à ce moment-là, la loi rituelle devient première pour Israël. Même à la limite, jusqu'à prendre le pas, pas vraiment sur la loi morale, mais enfin, être en tout cas à l'égal de la loi morale. Tandis que du côté chrétien aussi, on va différencier loi morale et loi rituelle. On trouve ça chez Justin déjà, qui affirme que la loi, Jésus a aboli la loi rituelle, mais il a gardé la loi morale. Vous retrouvez ça chez Calvin d'ailleurs, c'est très intéressant. Et, alors, il y a l'idée que Israël n'est pas véritablement élu, privilégié, mais que, en fin de compte, et c'est, vous trouvez ça chez Justin, ça montre un petit peu la perversité, les lois rituelles ont été données à Israël parce que ce peuple-là est un peuple dégénéré. Et c'était un jugement. Les lois rituelles étaient un jugement pour sanctionner le péché auquel le peuple d'Israël était particulièrement sensible, donc beaucoup plus sensible que les autres peuples. C'est un peu fort quand même. Alors par exemple, pourquoi la cacheroute, pourquoi les lois sur l'alimentation? Parce que le peuple d'Israël est un peuple qui est poussé à la gourmandise. Pas plus, pas moins que les autres. Mais voilà, ça c'est l'interprétation. Et ça ressurgit constamment. Pourquoi la circoncision? Parce que le peuple d'Israël est un peuple particulièrement libidineux. Et la circoncision est donnée comme un jugement contre la lubricité des Juifs. Vous savez qu'on retrouve ça encore aujourd'hui. Le juif lubrique, vous voyez ça chez les Arabes, par exemple, dans les affiches de propagande, etc. Bon. Vous retrouvez ça chez Chrysostome. Finalement, Chrysostome, pour lui aussi, le légalisme est condamné au nom de la loi. C'est prodigieux, il faut le faire. Et qui n'hésitera pas à être plus juif que les juifs dans un certain nombre de domaines quant au commandement, pour arriver à cette conclusion que le rejet d'Israël est sans appel. Chose que vous retrouvez encore aujourd'hui. Tout au plus, les juifs peuvent-ils, à titre individuel, s'intégrer dans l'Église, à condition, bien sûr, de cesser d'être juifs, ça va de soi. Il y a donc un nouvel Israël qui s'est créé en dehors de l'Israël ancien. C'est donc un autre Israël. Voilà. Alors vous voyez ici toute l'évolution qui conduit à ce virus Israël, à cette théologie de la substitution. Bon, polémique théologique, puis antisémitisme, idée que les Juifs sont une race dégénérée, c'est pourquoi la Torah leur est donnée. La Torah est un jugement sur leur caractère dégénéré. Et maintenant Dieu élit un nouveau peuple, un nouvel Israël, qui lui est supérieur moralement à Israël et qui n'a plus besoin de ses prescriptions rituelles parce que justement il n'est ni gourmand, ni lubrique, ni tout ce que vous voudrez, quoi. Bon, ni menteur, ni blasphémateur. Bon, c'est bien que les païens sont des gens presque parfaits, tout le monde sait ça. Par exemple aussi, Justin cite les charismes, ce qui montre qu'ils existent de son temps, c'est très intéressant, pour montrer que l'esprit de prophétie a quitté Israël pour venir chez les chrétiens. Alors, d'une certaine manière, c'est pas faux. Mais ça vient en appui, justement, pour montrer que les chrétiens sont donc le nouvel Israël. Alors, justement, lorsque le Talmud apparaît, eh bien, vous savez, c'est la grande découverte que fait Ben le Vénérable, au Moyen-Âge, que les Juifs ont un autre livre qui fait autorité chez eux, qui est différent de la Torah. Ah, ça, on n'avait jamais compris ça. C'est une découverte. Et alors, justement, que parfois on consultait les rabbins sur des problèmes d'exégèse de la Bible, de la Torah, eh bien là on découvre que les juifs sont en un autre livre. Ah, alors là, c'est vraiment des hérétiques. Oh, ce ne sont plus les frères aînés, mais ce sont des hérétiques. Finalement, trois problèmes essentiels sont soulevés à partir justement de cette époque. Premièrement, l'idée de l'élection des païens. C'est une idée qui apparaît déjà avec Ambroise de Milan, puis avec saint Augustin, qui est pratiquement son contemporain. Et alors, cette idée que puisque les païens sont élus, c'est donc que les juifs sont rejetés. Deuxièmement, quelle est la place de la Torah ? Et puis troisièmement, justement, la christologie. Or, justement, dans le Talmud, on a une approche quand même quelque peu différente. Certes, nous l'avons vu, il y a parfois des passages polémiques dans le Talmud, anti-chrétiens. Bon, faut-il s'en étonner ? Faut-il s'étonner que des gens qui sont attaqués depuis des siècles, comme le sont les Juifs, ne fassent que tendre l'autre joue et ne répliquent jamais ? Bon, ce qu'on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, souligner, c'est qu'ils ont été, ils ont fait preuve déjà, bien avant Papa Bush, à une retenue exemplaire, quand même, par rapport à cela. Et alors, justement, le Talmud va jusqu'à dire parfois que le christianisme a été permis par Dieu, voulu par Dieu, pour préparer les chrétiens, pour préparer les païens, en quelque sorte, à la venue du véritable Messie. Vous trouvez ça chez Maïmonide aussi, n'est-ce pas ? Et même, on considère comme un des signes des temps le fait que l'Empire deviendra chrétien. Alors évidemment, on est peut-être encore loin de ce que les chrétiens pourraient souhaiter. Enfin, ce n'est pas quand même une attitude d'hostilité déclarée. Alors évidemment, il y a l'idée qu'à la fin, Edom, c'est un mot codé dans la littérature talmudique pour désigner Rome et donc les chrétiens. Donc Edom sera jeté dehors, mais l'idée aussi que finalement, comme Ésaü et Jacob se réconcilient à la fin, eh bien Israël et Rome finiront par se réconcilier. Ça aussi, c'est quand même assez remarquable. Bien sûr, le Talmud rappelle aussi que Dieu n'a pas de fils, controverse anti-trinitaire, mais bon, ça, on reste sur le plan des idées, sur le plan théologique. Ça aussi, c'est l'idée que du refus d'une hypostase de Dieu, c'est quelque chose qui est une réaction anti-chrétienne. Il est évident que même dans la littérature kabbalistique, on l'a vu, cette idée revient, ce qui prouve que elle a été expurgée de force et qu'elle existait auparavant, et qu'elle revient de temps en temps. Par conséquent, à partir du Moyen-Âge, on met en sourdine justement la haine, ou plutôt la polémique anti-chrétienne. D'abord, comme le disent les Juifs, pour ne pas attiser la haine, le Talmud le dit. Ne pas attiser la haine. Bon, c'est évidemment une attitude qui est aussi compréhensible dans le sens que attiser la haine, ça veut dire attirer des représailles contre eux. Ils n'ont pas intérêt à faire de la polémique antichrétienne. C'est évident. Et si le Talmud fait preuve de retenue, c'est pas seulement par esprit, j'allais dire chrétien, de tendre l'autre joue, mais c'est aussi par intérêt. Si déjà pour si peu on brûle le Talmud, alors si on s'était livré à des invectives contre les chrétiens, ben alors là, où irait-on, quoi ? C'est l'idée, ne pas attiser la haine. Mais peut-être que si il y a une certaine retenue qui vient du fait, un petit peu comme dans Gamaliel, dit ben finalement Dieu s'occupera, quoi. Dieu jugera à la fin. Donc ce n'est pas notre problème. Et finalement, l'attitude du Talmud consiste à vouloir ignorer le problème chrétien. Hein. Ignorer le problème chrétien, vivre sa foi sans s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. C'est Dieu finalement qui jugera, même si on pense qu'à la fin, ben, il y aura quelque chose, il y aura une réconciliation comme on l'a vu. Par contre, du côté chrétien, à partir de Constantin, on l'a vu, on adopte le vieil antisémitisme gréco-latin. L'Empire romain était un empire qui avait une prétention à l'universalité. Ça, c'est une chose qu'il nous faut bien comprendre parce que ça nous reste dans notre société moderne. Universalité, et les Romains croyaient même qu'ils avaient été choisis par la divinité. C'était un mot très vague. Ça pouvait bien être une espèce de monothéisme vague, mais aussi la divinité, c'était la multitude des dieux, hein, le destin. Ils avaient été choisis par la divinité pour devenir les maîtres du monde, pour étendre au monde entier la Pax Romana et les bienfaits qui étaient ceux de leur valeur. Et c'est ce qui a conduit le pouvoir romain à diviniser l'empereur. César est seigneur, vous savez, c'est le grand problème de l'Apocalypse, qui en face de ça proclame Jésus est Seigneur, César est Seigneur. Ça n'est pas seulement une divinisation d'un homme, comme c'est Octave, le premier empereur, qui reçoit ce titre, Augustus. Vous savez qu'il change son nom en Augustus. Augustus, ça veut dire le divin, finalement. C'est lui qui est... Il est placé au rang des dieux, proclamé Augustus. Le plus élevé. Bon. C'est pas seulement, si vous voulez, un homme qui est divinisé, c'est le pouvoir politique qui est divinisé. Et ça, il faut absolument que tous les citoyens de l'Empire acceptent ça. Parce que le politique, finalement, c'est le moteur de l'histoire. C'est par le politique que l'Empire romain est devenu ce qu'il est, l'agent des bienfaits, finalement. L'Empire ne peut être que quelque chose de bon pour tous les hommes. Tous les hommes ont intérêt à devenir membres de l'Empire romain. Donc tous les hommes se doivent d'être reconnaissants au pouvoir politique qui leur assure la paix, la prospérité, la sécurité, tout ce qu'on voudra. À côté de ça, on admet que chaque individu, à titre privé, puisse avoir la religion de son choix dans la fourchette qu'on a vue tout à l'heure, à condition que ce ne soit pas des religions nouvelles. C'est très intéressant par rapport à notre situation actuelle, parce que finalement, l'idée romaine, c'est toujours l'idée de notre Occident chrétien, enfin, déchristianisé, disons. Prétention à l'universel. Égalitarisme, c'était l'idée des pouvoirs romains. Et ensuite, à titre privé, chacun peut avoir sa religion. La religion est quelque chose de privé. C'est la laïcité. Mais par contre, les valeurs universelles, les droits de l'homme, c'est une manière nouvelle de dire César est Seigneur, quoi. Et là, justement, il y a un problème. Pour l'Empire romain, c'est le peuple juif. Le peuple juif ne peut pas dire César est Seigneur. Et par conséquent, le peuple juif, puis finalement l'Église chrétienne, eh bien, est un élément hétérogène au sein de l'homogénéité du monde romain. Et d'où l'antisémitisme romain. L'antisémitisme romain vient de l'originalité de la religion juive, de son aspect éthique et de son monothéisme intransigeant. Et alors, on accuse la Torah d'isoler le juif du reste de l'humanité, et les juifs sont accusés d'être ennemis du genre humain, c'est-à-dire groupe inassimilable. Et alors, au départ, si vous voulez, contrairement à ce que, par exemple, la thèse de Jules Isaac, l'antisémitisme romain n'a rien à voir avec le christianisme. il est totalement indépendant du christianisme. L'antisémitisme chrétien connaîtra deux phases, j'en l'ai souligné tout à l'heure, c'est très important de le rappeler. Une phase théologique, où on ne peut pas parler d'antisémitisme, c'est une controverse théologique, un débat d'idées, à la limite parfaitement légitime. Puis, avec Constantin, on récupère, justement, les vieux mythes gréco-romains. Le peuple juif devient inassimilable. Pourquoi ? Parce que maintenant, n'est-ce pas, il y a un renversement. L'Empire est devenu chrétien, entre guillemets chrétien. Donc, le ciment de l'unité du monde romain, ce qui fait l'universalité du monde romain, c'est le christianisme. Et comme le judaïsme dit non au christianisme, en fin de compte, il dit non au monde romain. Et il y a télescopage de l'antijudaïsme théologique développé par l'Église chrétienne et de l'antisémitisme païen qui est récupéré et christianisé, si j'ose dire, maintenant, par l'Empire romain, devenu chrétien, qui a réinstitutionnalisé, en quelque sorte, ce vieil antisémitisme païen. En fin de compte, on ne sait plus trop si on reproche aux Juifs de dire non à Jésus ou de dire non à l'Empire. Parce que finalement, les deux choses se confondent. En disant non à Jésus, les Juifs disent non à l'Empire. Et ça, c'est inacceptable. C'est évidemment une brèche ouverte dans l'unité du monde romain. Bon. Alors, à la limite, on voit ça chez Justin déjà, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui accepte, en quelque sorte, de garder pour lui ses convictions juives, etc. Bon, ça va. Hein ? Mais c'est quand même quelque chose qui ne peut pas durer longtemps. Et c'est donc là que nous voyons apparaître véritablement l'antisémitisme chrétien au IVe siècle. Le véritable antisémitisme chrétien est l'amalgame de ces deux aspects, l'aspect théologique et l'aspect païen, recyclé dans le christianisme. Alors évidemment, on utilise l'Ancien Testament pour démontrer, à partir des prophètes juifs, ce caractère intrinsèquement perverti de la race juive. Hein par exemple, les prophètes dénoncent le caractère idolâtre, etc. Enfin bref, tout ce qu'on prend chez les prophètes, si vous voulez. Et ça apporte de l'eau à la haine de l'Église. Vos mains sont pleines de sang, par exemple. Ésaïe 1er. Leur vigne est un terroir de Sodome. Eh bien, l'accusation moyenâgeuse de crime rituel qui existe jusqu'à aujourd'hui dans le monde arabe et qu'on retrouve dans le monde occidental avec l'histoire du petit Mohamed, par exemple, là. Hein. Les juifs, comme ils ont tué les enfants musulmans, tuent maintenant les enfants chrétiens tuent maintenant les enfants musulmans, les enfants palestiniens, et certains vont jusqu'à dire que même ils ont vu des soldats israéliens boire leur sang. Bon. Il y a des journalistes qui ont dit des choses pareilles, des énormités pareilles. Bon. Eh bien, on dit, vous voyez, les prophètes avaient annoncé, vos mains sont pleines de sang, le sang des enfants. Bon, on ne se rend pas compte que ça, c'est une vieille accusation païenne. L'idée que le sang des enfants a des grandes vertus magiques. En magie, ça c'est connu. La magie des païens. Alors, c'est recyclé, voyez-vous, c'est recyclé dans l'antisémitisme traditionnel. Et on le christianise parce qu'on donne des justifications théologiques et scripturaires. Si bien que vous avez un mélange, si vous voulez, de ces anciens préjudices et ces anciens stéréotypes païens qui sont maintenant justifiés théologiquement par des textes tirés de l'Ancien ou du Nouveau Testament d'ailleurs. Hein? Bon, c'est l'exégèse qu'on trouve aussi chez Chrysostome. Hein? Ce sont ces versets qui sont à la base du crime rituel. Ça, on trouve ça dans tous les procès de crime rituel du Moyen-Âge. Voilà donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire de cette substitution qui se fait contre, quoi. C'est une opposition contre. Et ça, c'est le drame. C'est le drame, comme le dit Manzanares, qui est le résultat, justement, de la disparition du judéo-christianisme. Et alors là, c'est toute une piste de réflexion très intéressante. Est-ce que, justement, le temps n'est pas venu je ne dirais pas de rétablir un judéo-christianisme au sens de ce qu'il était au 1er siècle, mais en tout cas dans l'esprit de la chose, quoi, hein, pour essayer de faire évoluer les choses tant d'un côté que de l'autre. Hein, parce que finalement, ce n'est pas aussi un peu notre vocation. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?
Est-ce que dans la lecture du symbole du lycée, on peut avoir ajouté une note faisant part de notre héritage d'Israël ?
Oui, ça, ce serait bien. Ça serait bien.
Dans le symbole, il n'y a rien du tout.
Non, d'autant que le symbole du lycée, justement, de Manzanares l'étudie. C'est un bouquin formidable. J'ai trouvé ça en Espagne, quand je suis allé là à Tolède, chez Maria Teresa, là. C'est un bouquin qui s'appelle les histoires du judéo-christianisme. C'est un théologien catholique espagnol qui a écrit ce bouquin. Remarquable, c'est la meilleure chose que j'ai jamais lue sur ce sujet-là. Et alors, justement, il part du symbole de Nicée, il dit le symbole de Nicée. Bon, il montre une chose très intéressante, c'est que la christologie du Nouveau Testament, c'est-à-dire Jésus-Christ, fils de Dieu, etc. Contrairement à ce qu'on lit, par exemple, partout, dans toutes les écoles de théologie, y compris chez les Juifs, d'ailleurs, peut-on le reprocher, c'est les chrétiens qui le disent. On ne peut pas leur demander d'être plus chrétiens que les chrétiens, mais beaucoup d'exégètes chrétiens disent l'Église primitive de Jérusalem ne croyait pas que Jésus était le fils de Dieu. C'est Paul qui a introduit ça, c'est l'Église pagano-chrétienne. C'est une idée qui vient des milieux hellénistiques où il y avait les demi-dieux, etc. Donc c'est Paul qui a adopté ça par son contact avec l'hellénisme. Ça, c'est la thèse que vous trouvez chez Dibelius, chez Bultmann, chez tout ça, quoi. Bon, bien entendu, on n'a jamais cru ça. Mais enfin, lui démontre alors là, d'une manière absolument convaincante et sans parade possible, quoi, hein, que la christologie que l'on attribue à Paul datait de l'Église de Jérusalem. Donc dans les premières années, on trouve des traces de cette christologie-là dès les premières années après la Pentecôte. Alors ça, c'est remarquable déjà de dire ça, parce que ça, sur le plan exégétique, bon, nous, on n'en a jamais douté, mais dans les milieux théologiques on en doutait. Maintenant, ici, ça et ça, il n'y a pas de problème. Et alors, finalement, cette christologie-là qu'on trouve dans le symbole de Nicée. Donc, il dit finalement Nicée, il explique Nicée, l'ambiguïté de Nicée. Je l'ai dit tout à l'heure, condamnation de tous ceux qui ne respectaient pas bon, etc. La Pâque selon la formule nouvelle. Nicée a repris la théologie, la christologie des judéo-chrétiens, mais avec des termes grecs. Il l'a retraduit en grec. Bon. Alors je dirais, à la limite, ça ne nous dérange pas. L'essentiel, c'est le contenu, c'est pas tellement le contenant. Hein. Maintenant, ça peut déranger un certain nombre de juifs. C'était le cas, par exemple, de Yosef Rabinovitch, au XIXe siècle et au début du XXe, qui avait retraduit, en quelque sorte, le symbole de Nicée en langage juif. Et au lieu de parler des personnes, il parlait des parsoufim, par exemple, qui est une expression qu'on trouve dans la Kabbale, dans le Zohar. Bon, moi, je dirais ça non plus, ça ne me dérange pas. Hein, l'essentiel, c'est... Bon. Si quelqu'un est dérangé par le mot « personne », le mot « moyousos » ou des choses comme ça, moi, je veux bien qu'on change de mot à condition qu'on reste exactement dans la même... Bon. Vous savez que sur ce plan-là, je suis extrêmement nicéen. Mais c'est vrai qu'on a, comme dit Manzanares, ils ont changé le langage. Ils ont changé le langage. Mais ils sont restés fidèles quand même à la chose. Alors, de fait, on pourrait effectivement voir jusqu'à quel point on peut rajouter une allusion à notre héritage judéo-chrétien. C'est vrai qu'on en reparle, ça, j'y réfléchis, c'est qu'on en reparle. Oui. Parce que c'est le reproche qu'on faisait à Nicée, ça. Il disait, ben, Nicée, et même, par exemple, la polémique qui est actuellement dans les milieux messianiques, et ça, c'était, j'en parle avec Del Cosso, où on ne croit plus à la divinité de Jésus, parce que, donc, c'est une invention de l'Église grecque, par Nicée. Parce que nous, juifs, nous ne reconnaissons pas dans le langage de Nicée. Bon, d'accord, mais c'est intéressant ce que dit Manzanares. Le langage est effectivement hellénistique, mais le contenu est judéo-chrétien. Il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Alors ça nous conforte à fond. Alors maintenant, si on veut changer de langage, moi ça ne me dérange pas. Mais beaucoup de juifs aujourd'hui, juifs messianiques, sont en panade à cause de ça, quoi. Parce qu'ils ont été troublés par ces idées de Dibelius, de l'école des formes, là, forme geschichte, tout ça. Et que les juifs, les Juifs reprennent à leur compte. Hein, les Juifs reprennent ça à leur compte. Même un gars comme Ben Horin, il reprend ça un peu. Flusser aussi, finalement. Flusser, bien que... Bon, Flusser est un peu plus intelligent, il voit quand même que ça ne tient pas. Mais enfin, il avait déjà dit, avant de Sanarès, que la christologie était pré-paulinienne. Ça, c'était sa thèse. Mais enfin, il y a un peu de ça, quand même. Tandis que du côté de toutes les facultés de théologie, c'est ce qu'on enseigne. C'est grosso modo ce qu'on enseigne. D'ailleurs, le Monde de la Bible, le journal catholique, là, qu'on a acheté en kiosque, titre un de ses prochains numéros sur comment Jésus est devenu Dieu. Bon, c'est typique. Jésus est le fils de Joseph, simple homme, etc., et qui a été divinisé. Ça, vous trouvez ça chez Bultmann, par la foi de l'Église, quoi. L'Église, c'est l'Église grecque. Alors, on prend l'exemple des Ébionites. Les Ébionites ne croyaient pas à l'unité de Jésus, mais comme on demande Sanarès, ils croyaient d'abord à l'unité de Jésus, puis sont revenus à la négation de l'unité de Jésus à cause de Yavné, après 95. Comme aujourd'hui, un certain nombre de juifs messianiques font.